1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Yann avec vous. Vous écoutez Canal B, c'est Le Grand Tout, émission spéciale, dernier vendredi du mois. C'est Jean Libre A, saison 3, épisode 9. Dans un instant, nous ferons de grands écarts entre Vangelis et Earl Sweatshirt, entre Shellac et Miles Davis, avec notre invité Thomas Poli. Bonne émission. Aujourd'hui, dans Champ Libre A, saison 3, épisode 9, on retrouve le musicien rennais Thomas Poli. Bonjour Thomas.
Bonjour Yann.
Musicien, mais pas seulement, ingénieur du son, producteur, compositeur, il accompagne quelques musiciens de temps en temps, peut-être des gens comme Dominica, c'est arrivé. Il y a eu des projets aussi en trio de synthétiseurs avec notamment Yann Tiersen et puis Lionel
Laquerrière.
Et puis il y a eu mon groupe Montgomery il y a 20 ans, peut-être un peu plus même,
oui,
les débuts. Et puis ton travail avec de nombreux musiciens, musiciennes. On va parler avec toi de jazz, de musique électronique, de musique un peu plus noise. Toi tu aimes faire des passerelles entre les musiques populaires et savantes, entre la musique rock et la musique électronique. Tu vas vers la musique concrète, vers les musiques improvisées aussi, avec des synthétiseurs, des guitares. Les synthétiseurs, ils sont parfois analogiques, parfois modulaires. Bon, tu vas peut-être nous donner beaucoup de précisions techniques, mais c'est toi qui vas parler principalement, évidemment, c'est toi l'invité de cette émission. Le principe, c'est de se balader au deuxième étage de la bibliothèque des Champs Libres, d'y choisir quelques documents, des disques, des films, des livres, peu de livres, parce que ils sont surtout consacrés à la danse, à la musique et au cinéma, au deuxième étage. Et tu as justement sélectionné un livre qui parlera de danse. On va évoquer du cinéma d'animation, de la musique électronique, du rap, de la musique plutôt drone. Bon, voilà, ça va être une sorte de portrait chinois en référence, et on va revenir peut-être à la genèse. Toi, tu es musicien depuis combien de temps exactement ?
Eh ben, j'ai commencé à faire du piano quand j'étais petit, vers l'âge de 4 ans. Et voilà, j'ai toujours pratiqué le piano à la maison, j'ai pris des cours. À l'adolescence, j'ai voulu faire du rock, donc de la guitare, plutôt en autodidacte. Et ensuite, en venant à Rennes, en fait, j'avais plus de groupe et j'étais assez solitaire, donc j'ai commencé à faire de la musique électronique à ce moment-là, donc vers 18 ans. Première boîte à rythme, premier synthétiseur, un Korg MS-20. Et voilà, donc ça, c'était début des années 2000. Et après, est arrivé plein de formations, d'autres formations.
Je te reçois aussi parce qu'il y a un disque qui sort, nous donne à voir des choses qu'on ne voit pas d'habitude. Le monde invisible, eh bien, c'est la musique pour le monde invisible, ça c'est le disque. Et le monde invisible, c'est l'exposition qui a déjà commencé à la salle Anita Conti au Champ Libre. Et vous pouvez la retrouver jusqu'à la fin du mois d'octobre. On en parlera peut-être plus précisément en fin de discussion tout à l'heure. Une exposition tout de même des travaux de Flavien Théry et Fred Murray que toi tu vas mettre en musique peut-être. On va aller vers peut-être une des plus précises des claques musicales que tu t'es prises dans de la musique électronique. C'était quoi et quand?
Et en fait, il n'y avait pas beaucoup de musique chez moi, mais je me souviens d'être petit, de voir arriver une platine CD et les premiers CD, en fait. Et ça, c'était, je pense, en 1992, un truc comme ça. Et un CD qui m'a vraiment marqué, il y en avait peut-être une dizaine à la maison, mais celui que j'écoutais tout le temps, c'était Vangelis. Et il y avait des thèmes qui m'ont marqué, c'était beaucoup de synthétiseurs. Alors, je ne savais pas ce que c'était un synthétiseur à l'époque. Mais le thème de Blade Runner, il m'a un peu trauma.
On écoutait la première sélection de notre invité aujourd'hui dans Champ Libre A, saison 3, épisode 9, Thomas Pauly. On plongeait dans le monde futuriste de Blade Runner, un film contemporain de ta naissance en fait.
Le film, je ne l'ai pas vu avant d'être, je sais pas, dans ma vingtaine ou trentaine en fait. C'est la musique que j'avais découvert, mais le film, je ne l'avais pas vu avant, ouais, avant plus tard.
Est-ce que toi, tu commençais déjà à composer des pièces personnel au piano dès le plus jeune âge ou pas tout à fait?
Pas vraiment, non. C'est plutôt avec la guitare et mon premier 4 pistes que j'ai commencé à faire ça. Donc j'ai commencé à enregistrer des choses sur cassette. Mais le piano, non, c'était plutôt de l'improvisation où je trichais un peu aussi. Je faisais croire que je savais jouer et que je savais lire les partitions, mais en fait, je faisais croire, quoi. J'apprenais par cœur et je répétais beaucoup à l'oreille, en fait.
Je parlais tout à l'heure de ces passerelles entre les musiques savantes et populaires. Est-ce que dès ton plus jeune âge, dès la fin de l'adolescence, tu te rends compte de ça, qu'en fait, que tu n'as pas envie de rester cantonné dans un registre?
Ouais, après, à l'adolescence, du coup, tu découvres un peu tout. Par toi-même, c'était, ouais, c'est, faut le préciser aussi, ça commence à dater, c'est pré-internet, et donc la musique arrivait pas toute seule comme ça. Donc j'allais à la médiathèque de Lorient, ma ville, où j'ai grandi, et en fait je passais mon temps là, j'ai découvert la plupart des groupes comme ça, et plein de types de musique, que ce soit des musiques acoustiques, africaines, ou de la musique concrète. Je me souviens de Pierre-Henri aussi, que c'était une claque quand j'avais découvert. Voilà, toutes ces musiques de son, Pierre Schaeffer, et puis après, ouais, je sais pas, les Sex Pistols, Kraftwerk, Divo.
Je vais aller faire un tour hein, sur la page Wikipédia de Thomas Pauly, notre invité aujourd'hui. Elle est très fournie d'ailleurs, parce que tu as beaucoup d'activités. Je sais même pas comment tu peux tout faire de front. Bon, c'est un peu compliqué, mais on apprend que dès 1996, tu avais 13 ans. Tu commences déjà à t'inscrire au studio de répétition à Lorient.
Ah oui, première année, MAPL, je me souviens, j'ai ma carte de membre et on allait répéter avec mon premier groupe, du coup. On était en 5e, je pense.
Quand on commence si jeune, on sait qu'on va forcément se diriger vers une profession musicale.
Alors non, pas du tout, quoi. C'était vraiment une sorte de, je sais pas, de rêve, enfin même pas trop, en fait. C'était juste une manière de je sais pas, traverser l'adolescence, quoi. Faire un truc avec ses copains. C'était une obsession aussi, la musique. J'étais tout le temps en train d'écouter des trucs à la télé. Il y avait le Hit Machine qui passait. On savait tout ce qui sortait, en fait.
Et toi, tu t'intéressais à toutes les musiques contemporaines de ton adolescence, ou déjà tu allais vers des choses un peu plus lointaines, même si c'est plus compliqué parce que pas internet?
Pas tant en fait, pas tant dans l'adolescence, c'était plutôt rock et voilà, tous les sorties qu'il y avait, c'était un peu une sorte de c'est un âge super, je suis pas nostalgique de cet âge là quoi, j'y retournerai pas, mais c'était marrant de voir après voilà l'explosion genre post Nirvana, tous les groupes qui arrivaient à la télé, et c'était voilà tous les, je sais pas, Smashing Pumpkins, même des choses moins rock américain. Il y en avait un peu partout, il y avait même des groupes français aussi, il y avait une scène qui avait émergé, et on suivait tout ça, évidemment, tout ce qui sortait, même des gros groupes de pop. Il y avait Prince encore à la télé, il y avait plein de choses en fait. C'était, je dis pas qu'il y a pas aujourd'hui hein, mais c'est différent quoi. On avait que ça comme source, donc du coup il fallait aller creuser, et là où moi ça me plaisait, c'était d'aller creuser dans les magazines ou dans les livres à la bibliothèque, trouver des choses que justement, c'est pas personne n'écoutait, mais en fait j'allais creuser dans les trucs qui étaient moins mis devant, et souvent via des cheminements en fait tu arrives à aimer des musiques que tu pensais pas du tout aimer. Je me souviens de voir Nine Inch Nails en couvert de boue, tu sais, au festival de Woodstock 94, et j'ai détesté vraiment quoi, alors que c'est un groupe que j'aime aujourd'hui. Et voilà, il y a des petits cheminements qui te font aimer petit à petit des choses, et les choses qui m'ont le plus choqué et déplu au début, que je trouvais un peu laide, et en fait c'est des choses vers lesquelles j'ai pu aller en fait après. Et c'est pas d'un premier abord que tu le fais, mais du coup voilà, c'est une quête un peu d'aller chercher aussi ça.
Encore assez jeune donc, la quinzaine, tu découvres un musicien qui n'est pas forcément destiné à la génération de ton âge en fait. Il a déjà commencé sa carrière à la fin des années 1960. Bon, il va avoir sa grosse période au début des années 80, et en 98.
Ah oui, oui, je me souviens de, justement de cette émission de M6, le Hit Machine, où c'était beaucoup de tubes genre très commerciaux. Il y avait, je sais pas, les Spice Girls et Scatman quoi, qui passaient. Mais au milieu de tout ça, il y avait La Nuit Je Mens d'Alain Bachung. Et ça m'avait hyper marqué qu'un artiste aussi singulier en fait soit là-dedans. Et enfin, ce qui m'avait marqué, c'est que ça me plaisait en fait aussi. Et bah, plus tard, j'ai découvert un peu l'immensité de cet album et l'album d'après, notamment aussi L'Imprudence qu'il a sorti, où c'est des sortes de monuments, je trouve, de production de chansons françaises, enfin, ou de rock français, ça dépend comment on veut les étiqueter, mais c'est presque inégalé en fait. Il y a des disques de chansons françaises qui me font ça, et voilà. Après, j'ai découvert aussi avec Dominica qu'il y avait aussi cette grandeur quoi de production de disques, notamment avec le disque Augury qui m'avait vraiment mis une grosse claque. Mais voilà, Alain Bachung, La Nuit Je Mens à la télé, c'était vraiment quelque chose dans l'adolescence.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément.
Alain Bachung, La Nuit Je Mens, choisi par Thomas Pauly, notre invité aujourd'hui dans Champ Libre A, saison 3, épisode 9, quelques documents empruntés à la bibliothèque des Champs Libres. Et puis on parlera un peu plus tard de l'exposition que vous verrez, Le Monde Invisible, avec Flavien Théry et Fred Murie. Tu as découvert Bachung, tu le disais, sur M6 à la télé. À l'époque, tu ne connaissais pas encore Dominica, avec lequel tu allais travailler. Cette rencontre s'est faite comment? Tu as enregistré un live et puis ensuite tu es devenu musicien de scène Dominica.
Ouais, absolument. On s'est rencontrés en fait. Comment on s'est rencontrés? Mon grand ami David Evert était pianiste et arrangeur pour Dominique dans les années 2004-2005. Donc voilà, j'ai rencontré Dominique, c'était un Olympia qui faisait ça, où il ne jouera plus, il l'a annoncé, puisque c'est Bolloré qui tient ça. C'était en 2004, c'était sur la tournée de Tout sera comme avant. Et en fait, on s'est retrouvé à jouer sur scène un de ses morceaux, un de mes morceaux favoris de lui, qui s'appelle Le Commerce de l'eau. C'était une soirée qu'avait organisée Olivier Mélano, où il y avait beaucoup d'invités, et moi j'étais dans le backing band, on va dire. Et je jouais sur un grand piano le thème du Commerce de l'eau. C'était assez intimidant, et Dominique chantait devant quoi. Et en fait, on s'était super bien entendu, et c'était une très bonne soirée, etc. Et il est parti en tournée sur le disque de L'Horizon. Et il y a une version live qui a été éditée, et en fait ils m'ont convié à enregistrer cette tournée et à récolter les bandes qui ont été mixées après. par notre grand ami Dominique Brusson. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Dominique, partir sur la route. La tournée d'après, il m'a demandé si je voulais être guitariste et clavier, en fait, sur la tournée de La Musique, La Matière. Et là, a commencé vraiment une collaboration qui dure sur plusieurs, enfin, sur une dizaine d'années, en fait, avec Dominique.
Si vous voulez la liste exhaustive de toutes les collaborations, et encore, je suis sûr qu'il en manque, mais il y en a plus d'une cinquantaine, peut-être, entre les disques que tu as produits, ceux sur lesquels tu joues, les musiciens que tu as accompagnés en scène, les musiques pour la scène aussi que tu as faites, on en parlera un peu plus tard. Un travail vaste qui te laisse tout de même le temps d'écouter de la musique encore aujourd'hui ?
Ah ouais, ouais, carrément. J'achète toujours beaucoup. J'ai pas de compte Deezer ou Qobuz. J'arrive pas à écouter de la musique comme ça, ni à faire des playlists, ni à être, tu vois, un peu soumis à une sorte d'algorithme qui va te conseiller. Donc je rate sans doute pas mal de choses de nouveautés, mais j'en écoute quand même. Tu vois, OK Lou, j'ai adoré quand son album est sorti. Et j'ai vu que ça a décollé vraiment très fort après, là, et je suis trop content pour elle. C'est vraiment un album que j'ai beaucoup écouté et aimé, Choke Enough. Et même plein de choses voilà, plus récentes, quoi. Même le This Is aussi qui était sorti est vraiment super, j'adore. Je me tiens quand même au courant et j'achète toujours des vinyles.
Des vinyles, on en trouve à la bibliothèque des Champs-Libres, mais tu en as un sous les yeux qui va être un disque majeur pour beaucoup de fans de noise rock, mais pas seulement, et pour les ingénieurs du son et pour les gens qui aiment l'artisanat. Je vais te laisser nous parler de ce groupe, de l'importance qu'il a eu, et puis aussi de personnes que tu as pu rencontrer à travers ce disque-là.
Ouais, alors ce disque, c'est At Action Park, le premier album d'un groupe qui s'appelle Shellac. Shellac était un trio de noise rock fondé par un musicien, ingénieur du son et producteur américain qui s'appelait Steve Albini, qui nous a quittés il y a 2 ans brutalement. Et du coup, c'est une façon pour moi aussi de lui rendre hommage, de parler de lui et de ce groupe. Dans ce disque, on retrouve vraiment tout ce qui m'a un peu influencé dans la manière d'enregistrer et de produire un disque. Des choix des micros, des choix des ambiances, des choix des instruments. Donc c'est une musique très rock, très abrupte. Et du coup, il a été enregistré non loin d'ici, pas loin de Rennes, à 1 heure de route, dans un studio qui se montait à l'époque et qui est toujours présent. C'est le studio Black Box. Black Box a été fondé du coup par Ian Burgess, qui est ingénieur du son sur ce disque, et par Peter Daimel, qui est toujours à la barre de ce studio magnifique. C'est vraiment le meilleur endroit au monde pour faire un disque. Je rigole pas.
Un studio où enregistrer, je vais en citer quelques-uns, les Tugs, évidemment, on est à Angers. Anna Calvi, Deus, Tina Riwen, Metronomy, Kim Deal, Montgomery, évidemment. En tout cas, vous avez été mixé là-bas.
On a mixé notre deuxième album, Stromboli. C'est Peter qui l'a mixé. Ouais, c'était une expérience incroyable de découvrir le studio en travaillant là-bas.
Toi, tu as commencé à faire tes armes dans les studios autour de Rennes, dans le studio Cocoon.
Ouais, ouais, ouais.
Et puis ensuite, la découverte de ce Black Box à Angers, elle se fait en plusieurs étapes. Tu y retournes souvent ?
Ouais, j'y fais assez régulièrement quand même, soit pour produire des disques pour des artistes, quand on me le demande. Par exemple, on avait fait le premier album de Mesparo là-bas avec Peter aux manettes. Après, j'ai fait aussi de la musique personnelle là-bas. Par exemple, l'album qui vient de sortir, de la musique pour Le Monde Invisible, je l'ai mixé au Black Box, entièrement en analogique. Donc c'était sur des bandes 24 pistes qui étaient lues, passées par la console de Peter, avec un système d'automation géré qui est incroyable, en fait, où on pouvait synchroniser un ordinateur Pro Tools avec le magnéto analogique. Mais la source audio restait entièrement analogique, mais le contrôle du son était numérisé. C'est-à-dire qu'on avait un signal qui restait de la bande à la bande sur tout le processus, mais un contrôle qui pouvait être digital. On pouvait quand même écrire du data, faire des automations de mute et tout ça. Et en fait, c'est un vrai bijou, en fait, ce studio.
Avec une console de 1969.
Une Flickinger, il n'en existe que très peu dans le monde, et elle est vraiment maintenue de main de maître par Peter. C'est vraiment un studio vintage, mais tout fonctionne, quoi. C'est vraiment incroyable. C'est rutilant.
Alors, est-ce que ça t'a inspiré pour la création de ton propre studio ?
Absolument.
Comment exactement ? Tu as parlé des micros tout à l'heure, mais ouais. Autrement, la position des objets et tout ?
Absolument, même dans le design du signal flow, en fait, d'un studio où le son voyage d'une certaine manière, en fait, à travers tout l'équipement. Oui, oui, c'est absolument fondateur. C'est mon mentor, Peter.
Tu as enregistré beaucoup de disques récemment, de jeunes groupes aussi.
Ouais.
Quand je vois les Stuff Foxes, par exemple, ou un jeune groupe rennais que tu as eu plaisir, Carnage Picnic, à enregistrer, il me semble.
Ils sont du Mans.
Enfin, ils sont du Mans, mais bon.
Elio habite à Rennes, mais ouais, ils sont... Ouais.
Comment tu la vois, cette génération-là ?
J'adore travailler avec eux, avec LE, quoi. Ils sont hyper dispo, enjoués, ils honorent vraiment une session studio, quoi. Et ils sont organisés aussi, quoi. Je trouve ça incroyable ce qu'ils ont réussi à monter. Par exemple, Stuff Foxes, ils ont fait un festival à Tours qui s'appelle le No New Fest, qui a lieu tous les ans au Bateau Yves sur 3 jours. C'est une fête géniale de groupe underground. Ils ont un label qui s'appelle Reverse Tapes. Ils sont super organisés. Ils arrivent à distribuer leur musique, à jouer partout. Ils ont les Stuff Foxes notamment, ils ont eu des bookers un peu partout en Europe et ils ont signé aussi sur un label anglais. Ils sont vraiment extra, je les adore.
Et des groupes qui viennent jouer chez toi un peu plus jeunes que toi, vous parlez ensemble de groupes comme Shellac, par exemple, qu'on va écouter dans un instant.
Ouais, ouais, mais du coup, là, c'est pareil, ils ont accès à beaucoup de musique et c'est vraiment, c'est pas des encyclopédies, mais presque, quoi. Ils ont une culture incroyable, beaucoup plus grande que la mienne, en fait, quoi. Ils connaissent plein de musique. C'est des fans aussi de groupes comme Jesus and Mary Chain, mais ils connaissent vraiment en profondeur la musique rock et underground, quoi.
On va écouter Shellac, ce titre c'est My Black Ass sur l'album At Action Park. Pour ceux qui découvrent le groupe, qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui va les étonner ou leur plaire à ceux qui vont écouter ça?
Ah, c'est cette immédiateté en fait, quoi. On a l'impression d'être dans la pièce avec eux, d'assister vraiment à un concert de rock, quoi. Il y a zéro triche, il n'y a pas de retraitement vraiment, quoi. C'est comme une photographie de l'instant et j'adore. Ça c'est vraiment capté par justement l'enregistrement analogique où on va directement printer ça sur une bande. Et c'est remixé sur une bande aussi, quoi. Il n'y a pas d'overdub, il n'y a pas d'effet de production, vraiment. On a vraiment une sorte de truc brut de décoffrage et très puissant, très réel.
Je parlais tout à l'heure de pont entre divers genres, de passerelles entre diverses époques. Eh bien, c'est ce qui va se passer maintenant. D'abord Shellac et puis surprise juste après. We'll be right back. peut-être reconnu, un trompettiste célèbre de la musique de jazz, c'était Miles Davis, bien sûr, je le cite tout de même, avec cette pièce, un extrait seulement de He Loved Him Madly, choisi par Thomas Pauly. Est-ce que tu aurais souhaité assister à une séance d'enregistrement d'un live de Miles Davis?
Absolument, et d'être une mouche sur le mur, quoi. de voir ça, en fait. C'est des grands studios. Il y a une âme dans ces enregistrements, et je pense que c'était pas vraiment prévu pour faire des disques, en fait. Je pense qu'ils enregistraient tout le temps, qu'il y avait un embryon d'idées, en fait, qui était là, et une sorte de casting qui était fait de musiciennes et musiciens qui venaient enregistrer avec Miles, et c'était dirigé aussi par un producteur, Théo Macero, qui lui enregistrait tout, je pense, et les disques qu'on connaît de cette époque de jazz électrique. C'était une sorte d'immense ouverture, je trouve, alors que lui, il avait déjà plié le game un peu en jazz avant, et il a fait des disques mythiques. C'était encore plus haut et tout ça, et ça m'a beaucoup influencé, notamment pour m'ouvrir aussi sur des musiques plus planantes. Et je trouve qu'il y a ce côté-là, en fait, dans cette période de jazz électrique qu'il a sorti. Et cet album, Get Up With It, dont est extrait He Loved Him Madly, il est vraiment fou, quoi.
Quand toi, tu es à la console pour enregistrer un groupe, comment se passe la discussion avec le groupe? Ils amènent leurs envies et toi, tu leur conseilles parfois d'aller vers plutôt plus du live ou plus de post-prod après?
Ouais, ça, c'est vraiment une discussion au début de session, et on se fixe une sorte d'objectif un peu de la fin. Moi, j'essaye d'avoir une vision de ce qu'on veut, en fait, quand on enregistre. Et soit on a une approche assez photographique de l'instant, où le groupe en live joue ensemble, drivé par rien d'autre que leur propre force eux-mêmes. Ou d'autres fois, on peut faire des choses plus produites, plus processées, où on peut avoir recours aussi à l'utilisation de l'ordinateur, de dupliquer des choses, ou de voilà, corriger des erreurs par-ci par-là, quoi. Mais j'enregistre beaucoup sur bande magnétique maintenant, une chose que j'adore aussi. Et donc, plutôt dans les conditions du live, pour poser les basiques. Et ensuite, on fait quelques overdubs par-dessus.
On n'écoutera pas de Ornette Coleman dans cette discussion, et pourtant le nom de ton label, Impersonal Freedom,
ouais,
vient des notes de pochette d'un disque de Coleman.
D'un disque qui s'appelle Free Jazz, qui est une sorte de manifeste qui a été sorti dans, je sais même pas quelle année, mais dans les années 50, je crois. Tout début 60. C'est deux quartettes de jazz qui jouent dans la même pièce, et en fait ils sont chacun sur une enceinte, ce qui fait qu'on peut écouter trois disques en un seul disque, quoi. Si tu mets juste l'enceinte de gauche, t'entends un quartet qui joue. Si tu mets juste l'enceinte de droite, t'entends un autre quartet qui joue et qui improvise. Si tu mets les deux enceintes, t'as les deux quartettes qui jouent ensemble. Et dans les notes de ces enregistrements, Ornette Coleman dit que la liberté était tellement, la pièce était tellement remplie de liberté qu'elle en devenait impersonnelle, cette liberté. Et ça m'avait marqué, l'association de ces deux mots, Impersonal Freedom, et j'ai décidé de nommer mon label comme ça.
Puisque finalement, si on traduit un petit peu autrement, ça voudrait dire liberté collective, puisqu'elle n'est pas individuelle.
Ouais, ou aussi le fait de se faire guider, en fait, par quelque chose que tu n'as pas spécialement choisi. Et je trouve que mon parcours musical est un peu fait de ça, en fait, de rencontres. Et j'ai pas spécialement voulu aller travailler avec les gens avec qui j'ai travaillé. C'est toujours venu, en fait, assez naturellement. C'est un cheminement, en fait, une somme d'échanges, en fait, qui fait que c'est beau aussi de se dire que cette liberté, en fait, elle est presque impersonnelle.
On va revenir à la musique électronique. On avait commencé tout à l'heure avec Vangelis de cette manière-là. Alors, peut-être pas la même musique électronique, sans doute, avec aussi l'évocation de ce trio de synthétiseurs que vous avez monté il y a quelques années.
Ah ouais.
Presque 20 ans, en fait. Non, un peu moins.
Quand même pas, 2010.
Ah oui, avec notamment Yann Tiersen, mais vous étiez trois.
Ouais, il y avait Lionel Lacarrière, Mon frérot de Vendôme, qui a plusieurs groupes, Geyser actuellement, un groupe fabuleux que je vous conseille d'écouter.
Nestoris Bianca auparavant ?
Nestoris Bianca auparavant, qui était un groupe génial. On avait fait un album ensemble et on est devenus vraiment hyper copains. Et enfin voilà, c'est mon cœur.
Alors cette musique qu'on va écouter de ce musicien allemand Rodelius, là c'est une énorme influence aussi. Est-ce qu'on pourrait dire que tes principales influences ce serait Shellac d'un côté, Rodelius de l'autre?
Ouais, j'aime bien ce mélange aussi, quoi, pas être cantonné que dans un style, quoi. Après, en dix références, on peut pas tout aborder, et je pense que voilà, j'écoute vraiment beaucoup de musiques très différentes, quoi. C'est un peu fondateur pour moi, ces musiques aussi dans lesquelles tu peux te plonger et qui te sortent un peu du format trop traditionnel du couplet-refrain. Et Rodelius, Hans-Joachim Rodelius, c'est du coup un compositeur allemand Il est assez méconnu en fait, mais je pense que c'est vraiment le fondateur du mouvement ambient. Je pense qu'il a vraiment sur-influencé Brian Eno, qui est très connu. Et en fait, il est plus âgé, il doit avoir plus de 90 ans aujourd'hui, il est toujours vivant. Quand on a fait une tournée en Allemagne avec ESB en 2015, on a été invité à jouer à ses 80 ans, à Hans-Joachim Rodelius. Donc il y avait toute la scène de cette époque-là, qu'on appelait la Kosmische Musik, la musique planante allemande. Toute la scène était là, ou en tout cas tous ceux qui étaient encore vivants. Et c'était une claque de le voir jouer avec Cluster.
L'un des nombreux projets de ce musicien allemand Rodelius, c'était Cluster, qu'on écoutait à l'instant avec le titre Hollywood, extrait de l'album Soccer Zeit. Je le prononce avec mon allemand de cuisine. Tu parlais de l'anniversaire de ce vénérable musicien, de certains appareils, de certains instruments qu'il utilisait. Tu en as aussi certains les mêmes que Rodelius ?
Ouais, alors du coup, il y avait tout l'ensemble de l'instrumentarium de Cluster traversant les décennies en fait, qui était posé sur deux grandes tables, et il y avait un grand piano aussi, plus un hors stage, un hors lead, enfin un piano numérique quoi. Et il y avait l'ensemble des instruments, dont cette fameuse boîte à rythme. Je crois que c'est une LK qui a deux positions. Elle fait deux couleurs, une rouge, une bleue. Et en fait, ça bat la mesure comme ça. Donc il y a ce son de boîte à rythme hyper primitif, mais qui a une sorte d'entraînement, de groove, pas groove, mais tu vois, de rythme un peu très particulier, et qui est un des instruments fondateurs du krautrock. Et c'était génial de voir ça jouer. Et nous, on avait nos claviers analogiques avec ESB, le groupe, et nos MS-20, nos Moog et tout ça. Et il venait nous voir par-dessus notre épaule, et il avait dit « Ah yes, this famous guy from the past », en regardant mon clavier analogique. « Ah oui, je le connais celui-là, mais c'est du passé. » Et en fait, lui, il jouait que avec des trucs numériques. Il avait un tracteur et un Mac. Il nous disait ça, l'air de dire « Vous êtes bien courageux encore d'utiliser ces vieilles grilles. »
Mais toi, tu mélanges les deux, finalement.
Je suis assez branché analogique. Je suis très mauvais avec les ordinateurs.
On va changer d'ambiance encore, mais on n'arrête pas, évidemment, avec notre invité aujourd'hui, Thomas Poli, dans Champ Libre A, avec cette fois-ci des guitares plutôt sévères, quand même, je ne sais pas comment le dire.
Ouais, du doom metal, un groupe qui m'a hyper influencé aussi, que je suis allé voir plusieurs fois en concert, qui lui-même est un groupe très influencé par un autre groupe fondateur du doom metal américain. Le groupe là dont je parlais, qu'on va écouter, s'appelle Sun. On peut dire Sun O aussi. C'est du coup un duo de guitaristes de Greg Anderson et Stephen O'Malley. Ils sont très connus maintenant. Ils ont popularisé un style qui est vraiment qui avait une maison déjà avant. C'était un autre groupe qui s'appelait Earth, qui s'appelle toujours comme ça d'ailleurs. Dylan Carlson, qui avait monté ce projet de drone metal, donc des coulées de lave de guitare très très graves, très très basses, et qui sont très lentes quoi. En concert, c'est vraiment une expérience, c'est ultra fort, ça fait vraiment trembler la cage thoracique, et on peut rester genre 7 minutes sur une note et descendre d'un demi-ton en dessous et on a l'impression que le monde s'écroule, c'est une expérience incroyable. Et dans l'album que je sors là, le Musique pour le Monde Invisible, il y a quelques influences de Sun et notamment ses sons de guitare très distordus et très lourds.
Le groupe Sun, je vous disais, on peut dire Sun O, hein, plus facile pour voir comment ça s'orthographie, S-U-2-N,
oui.
Puis un O après, mais qui n'est pas c'est pas un son normalement.
Non, c'est un logo qui est tiré d'une marque d'amplificateur de guitare, et c'est Sun, avec du coup ce O qui, et des parenthèses derrière qui se ferment, qui représentent une sorte de vibration de l'air.
Alice, un extrait seulement. Vous retrouvez bien sûr tous les artistes qu'on écoute, hein, aussi bien disques, on parlera de livres dans un instant, et puis films, au deuxième étage de la bibliothèque des Champs Libres. C'est Champs Libres A, saison 3, épisode 9, avec Thomas Pauly. On a encore une preuve de la versatilité de tes goûts, de tes intérêts. Et c'est pas parce que toi tu es ingénieur du son que tu dois écouter toutes ces musiques-là pour voir comment tu dois faire sonner tel ou tel genre, quoi.
Non, non, absolument pas. Earl, c'est vraiment un rappeur que j'adore. Il a un flow super. Et je l'ai découvert avec Arm, un rappeur rennais avec qui je tournais et on travaillait. Il avait un groupe qui s'appelait Psychic Lyrica, et il avait ramené cet album qui s'appelle Doris, un album de, je pense, 2014 peut-être, de Earl Sweatshirt, et c'était la claque, j'adorais, c'était hyper moderne, et lui en fait, je trouve qu'il rappait comme des jazzman en fait, les gars, et Earl Sweatshirt, lui, il a un flow incroyable, et j'aime bien écouter du rap, j'ai pas une culture immense, mais j'adore écouter du rap, et ça fait partie vraiment de mes disques préférés.
Sur des groupes rap plus anciens, Public Enemy par exemple, ça peut t'intéresser aussi ?
Complètement, j'adore à fond Public Enemy, quoi. J'ai écouté ça très tôt d'ailleurs, vraiment à la fin des années 90, quoi. J'adorais ça, cette sorte de rouleau compresseur, quoi. Qui après m'a amené à écouter Dalek aussi, que j'ai découvert à Rennes en concert, quoi. Lui, il faisait vraiment une fusion entre Public Enemy, il le fait toujours, hein, Dalek, je l'ai rencontré, on a joué ensemble et tout. Il fait une fusion entre Public Enemy et My Bloody Valentine par exemple, c'est des murs de guitare sur des grosses rythmiques très très lourdes de rap. Ouais, j'adore tout ça.
Vous l'entendez, hein, Thomas Pauly a une bibliothèque dans la tête en fait, hein. J'arrive très bien à faire se répondre pas mal de références comme ça. On se limite à quelques documents. Vous pourrez aller investiguer, aller chercher aussi tous les artistes que tu nous cites aussi et que tu évoques. On écoute ce titre 100 High Street par Earl Sweatshirt, et puis on va parler de danse juste après. Oui, parce qu'il y a aussi des livres sur la danse au deuxième étage de la bibliothèque des Champs Libres.
Thank you. focus steady and unbroken. I was resting on the low end, my prerequisite to going in. I chief recklessly with no end. I went heavy on the dosage, trying to comprehend me like my bro did. I reap everything I sowed in, it seemed effortless with no stitch. It's we steppers, bitch, you know this. Cream preps in a cold wind, seen Skeppy out in Shoreditch. He said the telly for the hoes, keep them heifers off your doorstep. Geese feathers under foreheads, Tempur-Pedic with the Reaper, got the no depth. It wasn't easy, but we grown men. I really mean it like the song said. I gotta beat them like the locks, got my demons on the wall press. Four arms and feet on necks, I'm seeing green like I bought Tris. They in the red like forceps. We beat them like a cheesy joke, even when a freaking horse dead. Quiet on set.
The especially important part played by the Mundo, or the royal ancestors, as protectors of the land and bringers of the rains is also recognized in popular song.
Après le rap de Earl Sweatshirt, la danse avec ce livre So Schnell, c'est Dominique Bagouet, chorégraphe disparu, mais dont tu as pu reprendre une partie de musique, c'est ça ?
Voilà, il y a Catherine Legrand qui était du coup une danseuse de la compagnie Bagouet dans les années 80 et jusqu'au décès de Dominique Bagouet en 92, qui en 2015 à peu près a remonté des pièces de Dominique Bagouet et convoqué du coup des danseurs plus jeunes. Elle m'a confié en fait le rôle de reprendre les pièces sonores et de les remettre à aujourd'hui en fait. Donc on a fait des tournées dans des beaux théâtres et j'avais une installation sonore notamment sur la pièce So Schnell avec de la musique concrète à interpréter et une pièce de Bach à jouer aussi. Et ça m'a ouvert à la danse contemporaine. C'est vraiment fabuleux ce que Bagouet en fait a apporté pour la danse contemporaine française. Et j'ai découvert beaucoup de choses en travaillant avec elle, avec Catherine. Donc je la salue et je la remercie pour ça.
Mais je veux bien que tu nous donnes la suite de ce titre, So Schnell. Ça, c'est le nom du petit recueil de Dominique Bagouet, mais c'est un extrait d'une phrase un peu plus longue.
Ah oui, alors je vais le dire pareil avec mon allemand approximatif. So Schnell, eine rauhen Wasserschicht. Ça veut dire que l'eau du torrent, en fait, coule si vite. C'est une métaphore sur la vie. En fait, c'est la dernière pièce qu'a écrit Dominique Bagouet, et c'est une métaphore sur sa mort, en fait, qui arrivait. C'est une pièce vraiment très belle avec des corps qui sont toujours en l'air et toujours en train de sauter et qu'il y a un refus en fait d'aller vers la terre, d'aller vers le bas, mais ça y va à la fin.
Ça nous amène à cette autre pièce avec ce titre qui parle du temps aussi, Illusion of Time, Daniel Avery et surtout Alessandro Cortini. Évidemment, le temps est précieux quand on a ces multiples activités, et le temps, quand on est musicien, c'est forcément un des ingrédients de base.
Ouais, c'est ce qui compose la musique. La musique, c'est du temps.
Et celle de Alessandro Cortini, elle nous emmène loin, loin.
Alors, moi j'ai commencé à écouter Alessandro Cortini via Nine Inch Nails, un album qui s'appelle Ghost, qui était sorti en 2000. Et il y avait des textures très très granuleuses, très planantes en fait aussi, de sons, de synthétiseurs modulaires. Et ça a été vraiment une grosse influence quand il a commencé à sortir de la musique en solo. Parce qu'il a joué dans Nine Inch Nails, le groupe de rock industriel américain pendant plus de 20 ans. Mais il a commencé à faire des albums solo aussi en parallèle. Cet album là que je propose, c'est un duo avec Daniel Avery, qui est plutôt un DJ et musicien électronique anglais, et je trouve leur collaboration est super bien. Et je dois dire aussi qu'il est mixé par une ingénieure du son anglo-italienne qui s'appelle Marta Saloni, dont j'adore le travail, et je trouve que c'est un morceau fabuleux, Illusion of Time, avec l'utilisation des séquences et des souffles.
Thank you.
nous n'écoutons que des extraits, hein, des documents choisis par Thomas Poli, notre invité dans son livre aujourd'hui, puisque les pièces sont souvent assez longues, et puis que tu es un intarissable raconteur d'histoires et de souvenirs.
Ouais, je suis
Thomas.
Bavard. Hein.
Eh oui, mais c'est bien, moi j'aime bien. J'aime bien aussi qu'on parle d'autre chose que de musique, c'est ce qui va arriver maintenant, puisque là, on va évoquer le génial créateur de films d'animation, le Canadien Norman McLaren, mais qui ne faisait pas que de l'image non plus.
Qui faisait de la musique aussi avec la matière pellicule, en fait. Il grattait des pellicules, il grattait les bandes-sons, en fait. Il dessinait les bandes-sons sur les bandes optiques des pellicules. Avant le numérique, en fait, on projetait les films avec des pellicules qui défilaient à 8, 16 ou 24 images secondes, je crois. Sur les côtés, en fait, à partir du Super 16 et du... 35 mm. Il y a une bande optique qui est décodée en fait par de la lumière, et on peut le son s'inscrit sur cette bande optique et on peut dessiner. Lui, ce que faisait Norman McLaren dans les années 40, il dessinait en fait sur cette bande optique et ça créait du son. Et c'était des sons inouïs à l'époque. Personne n'avait fait ça, quoi. Donc là, on est proche de la musique concrète et des débuts de la musique électronique. Et ça m'a... Ouais, c'est fascinant, quoi. J'ai adoré. C'est une source d'inspiration.
Sous les mots de Thomas Poli, les sons de ce court-métrage d'animation de Norman McLaren, Dots, qui va influencer le cinéma d'animation grand public, forcément, on s'en doute. Comme on est au rayon cinéma, tiens, un autre film, celui-ci de fiction, un film de Jeff Nichols, Take Shelter, que tu as choisi. On n'en écoute pas d'extrait. En quelques mots, ce qui t'a intéressé et plu dans ce film.
Ouais, en fait, j'ai pas non plus une culture cinéma immense, mais il m'avait marqué ce film, et du coup, j'ai trouvé ça chouette de le partager, parce qu'on le voit sans doute pas souvent. Bah, après, les fans de cinéma diront que c'est très très connu, mais ça m'avait marqué parce qu'il y a un jeu avec le spectateur que je trouvais assez unique. Et il y a une sorte de trame non résolue dans ce film-là que je trouvais intéressante. Je vais rien spoiler, mais je vous invite à le voir. Et les acteurs et actrices sont vraiment super. Michael Shannon, il a un physique vraiment incroyable, un grand... corps, une tête vraiment, enfin une gueule incroyable, et puis Jessica Chastain aussi, que j'aime beaucoup comme actrice, et enfin voilà, je vous invite à voir Take Shelter.
Vous le ferez, et puis en même temps que vous irez peut-être chercher le DVD à la bibliothèque des Champs Libres, eh bien vous arrêterez au rez-de-chaussée dans la salle Anita Conti pour l'exposition Le Monde Invisible, Flavien Théry, Fred Murie et Thomas Poli, à nouveau associé, puisque vous l'aviez déjà été il y a 4 ans, il me semble.
Ouais, un peu moins, il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, pour le coup, on avait fait une exposition qui s'appelait Le Rayon Extraordinaire, et il m'avait invité à illustrer l'expo avec de la musique, et on a reconduit ça pour cette année, et je peux pas espérer mieux, en fait, que de faire de la musique pour ce type d'installation et d'exposition, et de travailler avec des artistes comme eux.
Le Monde Invisible, que vous découvrirez donc, un dialogue, hein, c'est présenté comme ça, entre art et science, on y voit des choses qu'on ne voit pas normalement.
Voilà, les choses sont devant nos yeux, mais finalement on ne les voit pas, et il y a peut-être par des procédés, en fait, qu'on essaye de révéler quelque chose. Et il y a aussi une histoire d'essayer de rendre visibles les choses qui sont d'habitude masquées, ou qu'on ne se doute pas qu'elles soient là. Et donc ça joue un peu sur des illusions d'optique. Et il y a beaucoup de 3D anaglyphes aussi, où on prend des lunettes rouges et bleues, enfin cyan et rouge, et qui font apparaître des reliefs sur des œuvres fixes, en fait. Il y a de la tapisserie, il y a de la vidéo, il y a beaucoup d'œuvres assez différentes. Il y a 25 pièces à voir, et la musique est diffusée en continu, en mode immersif.
Assez vertigineux, évidemment, puisque on y voit des choses soit très très petites, soit très très grandes. Comment toi tu t'inspires de ces images pour créer la musique qui accompagne?
On a travaillé pendant 2 ans ensemble, où j'allais voir régulièrement les artistes à leur atelier. Je rentrais à mon studio avec ces images qu'ils étaient en train de produire, en fait, quoi. Et il y a des images qui ressortaient et qui m'inspiraient des thèmes musicaux, ou des ambiances, ou des textures. Et après, ça a été un processus assez solitaire, finalement, de le faire. J'ai je me suis pris 3 semaines en fait pour coucher cette musique sur bande. Ça a été enregistré donc dans le domaine magnétique et il y a des instruments qu'on retrouve surtout, enfin alors un peu l'ensemble de ce que j'ai pu faire discographiquement. Il y a de la batterie, il y a de la guitare électrique, il y a des synthés modulaires et je chante aussi. C'est un peu une première sur un disque. Le disque est disponible en vinyle et c'est un vinyle 100% analogue. Il a été fait entièrement en respectant une chaîne analogique jusqu'au vinyle, quoi. Il y a zéro processus de digitalisation. C'est une première, ce que j'ai fait d'autres disques depuis plusieurs années, mais jamais de cette manière-là. Donc c'est une démarche assez radicale pour essayer de transmettre des vibrations qui ont existé, des vibrations d'air en fait, qui ont été capturées et qui sont retransmises de la manière la plus pure possible, je dirais. Il n'y a aucune digitalisation à n'importe quel moment, donc aucun séquençage, aucune interpolation de cette vibration qui a, quelque part, je résonne un peu à l'échelle cosmique, mais qui a existé au monde et donc qui se révèle sur le vinyle. C'est une transmission, en fait, d'une vibration.
Et si ça s'appelle musique pour le monde invisible, on entend aussi des choses qu'on est censé masquer quand on est ingénieur du son.
Absolument. Si j'avais travaillé avec un ordinateur, j'aurais retouché des choses, j'aurais corrigé des trucs. Et là, en fait, tout est là, c'est présent. Chaque son qui est là et chaque temps qui passe en fait sur ce disque a réellement existé. Et c'est une sorte de comme la photographie argentique en fait. C'est une sorte de transmission de cette vibration en fait, qui est à mon avis le plus proche possible de ce que ça a été.
Et avec sur la pochette, eh bien un cortex comme ça, un cerveau. On y voit des connexions. Qu'est-ce qu'on y voit vraiment sur cette image ?
On y voit des clous en fait à l'intérieur de la tête. C'est une image assez forte. C'est une des images les plus fortes, je trouve, de cette exposition. Je vous invite à venir le découvrir si vous êtes à Rennes, même si vous passez par Rennes et que vous avez une heure à la gare de Rennes. C'est juste à côté de la gare et je vous invite à passer voir cette exposition au Champ Libre. Cette image et de cerveau m'a beaucoup marqué. Elle est très intrigante. C'est un cerveau d'étude qui a été fait par un professeur qui s'appelle le docteur Ozu, je crois au début du XXe siècle. Et c'était des cerveaux destinés aux étudiants en médecine dans la région rennaise. Et c'est des modélisations en fait en papier mâché et en liège. Et ils ont eu l'occasion de scanner en fait ces cerveaux-là. Et ils ont découvert en fait qu'il y avait des clous qui tenaient les choses à l'intérieur. Donc ça crée une image quelque part assez violente. Un peu dur, mais à la fois très intrigante aussi, quoi. On peut y voir un peu d'art brut aussi là-dedans, ou peut-être quelque chose comme de l'art africain aussi. Et moi, ça m'a hyper plu comme image. Et voilà, c'est devenu la pochette.
Alors, étonnamment, j'y voyais tout à fait autre chose, des correspondances, des liens entre une idée et une autre, entre une sensation et une autre. Et finalement, ça rejoignait pas mal ce que j'imaginais de ta façon d'être artiste. Bon, et ben ouais, c'est tout à fait autre chose. Merci en tout cas, Thomas, d'être venu nous balader dans ton monde intérieur et puis dans ton évolution musicale. Vous retrouvez le disque, il est disponible depuis le 22 mai sur le label Impersonal Freedom, cette musique pour le monde invisible. On en écoute pour terminer un extrait, ce titre-là, en quelques mots.
Gone, c'est un titre assez apaisé, assez quelque part un peu nostalgique aussi, mais c'est c'est un titre pour ceux qu'on aime et qui sont plus là.
Vous retrouvez le monde invisible, Flavien Théry et Fred Murray, jusqu'au 11 octobre, salle Anita Conti. On termine avec Thomas Poli. Merci.
Merci Anne.